Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1958. Anthropologie structurale rassemble des articles et conférences dans lesquels Claude Lévi-Strauss formule, défend et applique une méthode appelée à transformer durablement les sciences humaines. Il ne propose ni une monographie de terrain, ni un manuel linéaire, mais un ensemble d'études portant sur la parenté, le langage, les organisations sociales, les mythes, la magie et les rapports entre histoire et ethnologie. Leur unité réside dans une même exigence comprendre les phénomènes culturels comme des systèmes de relations plutôt que comme de simples collections de coutumes. Inspirée notamment par la linguistique structurale, cette démarche cherche les règles souvent inconscientes qui organisent des pratiques et des récits très divers. Lévi-Strauss vise ainsi une rigueur analytique qui ne renonce pas à la variété concrète des sociétés. Ouvrage fondateur et parfois exigeant. Le livre expose aussi les tensions de son programme, comment dégager des invariants sans effacer les transformations historiques et les conditions sociales particulières. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, étudier les relations plutôt que les éléments isolés. La proposition centrale de l'anthropologie structurale est que le sens social ne réside pas d'abord dans les objets, les personnes ou les institutions considérées séparément, mais dans les relations qui les unissent. Une règle de mariage, un terme de parenté ou un épisode mythique prend sa signification par contraste, opposition, corrélation et transformation avec d'autres éléments. Lévi-Strauss emprunte ce déplacement à la linguistique structurale. Un son linguistique ne vaut pas par une propriété substantielle, mais par sa différence avec les autres sons du système. Il cherche à appliquer une logique comparable aux faits culturels. Cette méthode conduit à construire des modèles, c'est-à-dire des représentations raisonnées capables de rendre intelligibles plusieurs données empiriques. Le modèle ne prétend donc pas reproduire toute la vie d'une société. Il sert à identifier une organisation sous-jacente, puis à vérifier si cette organisation explique les variations observées. Cette priorité donnée aux relations permet à Lévi-Strauss de contester les explications qui ramènent trop vite une coutume à son utilité immédiate ou à son origine supposée. Elle rend aussi possible la comparaison entre sociétés éloignées. En revanche, elle impose une discipline ne pas confondre une description ethnographique, déjà façonnée par des catégories locales ou savantes, avec la structure analytique que le chercheur tente de dégager. Deuxièmement, le langage comme modèle et comme partenaire de l'anthropologie. Les essais consacrés au rapport entre linguistique et anthropologie exposent une ambition interdisciplinaire décisive. Lévi-Strauss ne soutient pas que les sociétés sont simplement des langues. Il estime plutôt que les progrès de la linguistique montrent comment analyser rigoureusement un ensemble complexe en distinguant des niveaux, des unités et des relations. Le langage est à la fois une condition de la culture, puisqu'il permet la communication symbolique et un modèle méthodologique pour examiner des phénomènes tels que la parenté, les classifications ou les mythes. Cette analogie oblige cependant à comparer des objets placés au même niveau analytique. Une observation brute sur une société ne peut être mise en parallèle sans précaution avec une catégorie linguistique issue d'une analyse élaborée. Le livre insiste donc sur le travail de construction des données autant que sur les résultats. Cette orientation explique le refus de traiter les institutions comme des réalités transparentes à la conscience des acteurs. Les individus connaissent et interprètent leurs règles, mais les régularités qui structurent un système peuvent dépasser leur formulation explicite. La recherche doit alors articuler ethnographie, comparaison et formalisation. Cette exigence a élargi l'horizon de l'anthropologie, mais elle explique également pourquoi la lecture demande une certaine familiarité avec les débats théoriques de son époque. Troisièmement, parenté, échange et figure de oncle maternel, la parenté constitue le terrain privilégié où Lévi-Strauss rend visible la portée de son analyse. Il critique les interprétations qui réduisent une terminologie familiale à la filiation biologique ou à une nomenclature descriptive. Les appellations, les attitudes entre parents et les règles matrimoniales forment un système dont les termes se définissent réciproquement. Dans son étude célèbre de la relation avinculaire, la relation entre un homme et son oncle maternel est examinée avec celle qui relie frère et sœur, mari et femme, père et fils. Le point important ne consiste pas à isoler une coutume exotique, mais à montrer qu'une relation apparemment singulière devient compréhensible lorsqu'elle est insérée dans un ensemble de positions et de contrastes. Plus largement, les règles de mariage font apparaître une logique de réciprocité et d'alliance entre groupes. L'interdiction de l'inceste, centrale dans les travaux de Lévi-Strauss, marque le passage de relations exclusivement familiales à des relations d'échange organisées socialement. Anthropologie structurale ne remplace pas les structures élémentaires de la parenté consacrées de façon plus systématique à ces questions. Elle montre toutefois comment l'étude de la parenté sert de démonstration méthodologique, rechercher des configurations relationnelles. comparer leur transformation et distinguer la règle structurale des formes historiques particulières par lesquelles elles se manifestent. Quatrièmement, might. Magie et efficacité des systèmes symboliques, les textes sur la magie. Le chamanisme et les mythes déplacent la méthode structurale vers des formes de pensée qui furent souvent disqualifiées par une opposition simpliste entre croyances irrationnelles et savoir scientifique. Lévi-Strauss ne demande pas si un rite est vrai au sens expérimental moderne. Il analyse les conditions symboliques et collectives qui peuvent lui conférer une efficacité sociale et psychologique. Dans les situations de guérison, par exemple, un récit rituel, les attentes du malade, le rôle du spécialiste et la reconnaissance du groupe peuvent former un système cohérent. Cette cohérence ne prouve pas une causalité médicale universelle, mais elle explique pourquoi une pratique peut être vécue comme agissante. La réflexion sur le mythe suit une direction parallèle. Un mythe ne se laisse pas réduire à une version unique ou à une morale explicite. Il faut examiner ses unités de relation, ses oppositions et les transformations qui relient des récits voisins. Lévi-Strauss cherche ainsi à montrer comment les mythes travaillent des contradictions, notamment entre nature et culture, continuité et séparation, vie et mort. La valeur de cette analyse réside dans sa capacité à reconnaître une élaboration intellectuelle complexe dans toutes les cultures. Sa limite tient au risque de privilégier la logique formelle du récit au détriment de ses usages politiques, de ses conditions de transmission et des conflits concrets qui entourent sa circulation. En dernier lieu, la tension durable entre structures universelles et histoire vécue, le recueil ne défend pas une indifférence pure et simple à l'histoire. Lévi-Strauss examine explicitement les relations entre histoire et ethnologie et refuse que la seconde soit définie par une absence de temporalité. Sa question est plutôt de savoir ce que chaque discipline rend visible, là où histoire suit des événements, des transformations et des enchaînements documentés. Analyse structurale cherche des relations plus stables, qui peuvent apparaître à travers une succession de situations. Cette distinction donne à l'anthropologie un instrument comparatif puissant, mais elle a suscité des objections importantes. En privilégiant les invariants de organisation symbolique, la méthode peut laisser au second plan les rapports de pouvoir, les crises économiques, les effets de la colonisation et les initiatives des personnes étudiées. Les catégories employées dans plusieurs textes appartiennent aussi au vocabulaire daté de anthropologie du milieu du XXe siècle et appellent une lecture critique. Ces réserves ne réduisent pas le livre à une pièce de musée intellectuelle. Elles indiquent comment le lire aujourd'hui comme une proposition méthodologique majeure, non comme une grille suffisante à elle seule. Son intérêt est précisément de contraindre le lecteur à distinguer structure, événement, représentation et pratique, puis à se demander ce qui est gagné ou perdu lorsqu'une explication donne la priorité à une de ces dimensions. En conclusion, anthropologie structurale convient en priorité aux étudiants, chercheurs et lecteurs déjà intéressés par anthropologie, linguistique, philosophie, sociologie des symboles ou histoire des idées. Ce n'est pas une introduction légère, la forme de recueil, la densité conceptuelle et les références ethnographiques supposent une lecture lente, parfois sélective. Elle peut néanmoins être très profitable à un lecteur non spécialiste qui accepte de suivre les démonstrations plutôt que de chercher un exposé progressif. Les chapitres peuvent souvent être abordés séparément, en particulier ceux portant sur le langage et la parenté, la magie ou le mythe. Le bénéfice intellectuel principal est de modifier la manière de poser les questions au lieu de demander seulement ce que signifie une pratique. On apprend à demander avec quelles autres pratiques, catégories ou récits elles forment système, par rapport aux ouvrages généraux de l'anthropologie. Le livre se distingue par la force de son programme analytique et par le passage constant entre introduction de méthode et analyse précise. Par rapport au manuel contemporain, il est moins attentif aux enjeux réflexifs, politiques et historiques désormais essentiels, mais il demeure irremplaçable pour comprendre la naissance de structuralisme. Une lecture critique permet donc de saisir simultanément son apport affirmé la complexité égale des productions symboliques humaines, et ses angles morts la tendance à abstraire les formes culturelles de leurs histoires et de leurs rapports de pouvoir. Cette double portée explique sa place durable parmi les classiques. Si vous souhaitez soutenir Claude Lévi-Strauss, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.